Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont vous n'avez sans doute pas entendu parler depuis quelque temps. C'est la pandémie de coronavirus. Ça doit faire au moins 10 minutes que vous n'avez pas eu d'infos à ce sujet-là. Alors, apparemment, dernière nouvelle, il y aurait un espoir de sortir de cette situation. Il y a des vaccins qui arrivent. Il y en aurait même un qui est presque opérationnel. Tant mieux, et c'est très bien. Il faudrait qu'il ait une efficacité réelle suffisante, qu'il ait une facilité de mise en œuvre pour permettre que tout le monde soit vacciné, qu'il y ait un taux de couverture vaccinale suffisant pour réduire la propagation du virus. On verra. Il faudra aussi qu'il soit distribué de manière équitable. Je ne sais pas si vous avez entendu un dirigeant d'un grand pays affirmer que le vaccin serait disponible dès le printemps en quantité suffisante pour tout son pays, sauf une grande ville de son pays, qui fait pourtant partie de ce grand pays, mais qui a mis en œuvre des mesures sanitaires plus strictes que ce que préconise ce dirigeant, ce qui ne lui a pas plu. Et ça pose un vrai problème éthique, pas politique, éthique, moral, de l'égalité de l'accès aux soins, du prix d'une vie, puisque en amont, c'est-à-dire avant tout un désaccord économique. Ça, c'est un petit peu l'actualité. Et je ne sais pas ce que vous pensez de cette situation dans laquelle on est, de cette maladie, mais c'est très particulier. Le taux de mortalité du Covid-19 est entre 0,5 et 1%. Certains disent 3%, mais ce n'est pas encore fiable, on manque de recul. C'est ce qui est perturbant, je trouve. Ce n'est pas comme si toutes les personnes contaminées par ce virus mouraient automatiquement. C'est pas comme la fièvre Ebola, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait un taux de mortalité de 50%, une grande contagiosité. Ou la rage, qui est aussi due à un virus. Là, la rage a un taux de mortalité de 100% quand on est atteint. Et puis, c'est pas comme s'il y avait aussi des millions et des millions de morts, comme la peste noire du XIVe siècle. Je pense que vous ne vous souvenez pas pour la plupart. Mais la peste noire au XIVe siècle, c'était 50 millions de morts. Et c'était presque la moitié de la population mondiale de l'époque. Donc on n'est pas dans ces ordres de grandeur, que ce soit en taux de mortalité ou en nombre de personnes décédées. Et c'est bien ça que je trouve bizarre, moi. C'est que, comme vous avez certainement pu constater, pour le Covid-19, il y a beaucoup de différences de réaction entre individus. Il y en a qui réagissent très mal, d'autres qui supportent plus ou moins bien, d'autres qui n'ont aucun symptôme, du moins en apparence. Parce que c'est jamais anodin quand on a un virus qui rentre dans notre organisme. C'est pas forcément symptomatique, mais il y a forcément un impact. Et en médecine, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, mais depuis quelques années, on commence à découvrir l'influence de ce qu'on appelle le microbiote dans l'organisme. C'est-à-dire tout cet écosystème de microbes, de bactéries et de virus aussi, que nous avons dans notre corps, qui contribuent en temps normal à notre santé et qui parfois peuvent devenir pathologiques. Et on constate que pour certains, ils peuvent même influencer notre comportement. Et ça, c'est assez étonnant. Je ne sais pas si vous connaissez le parasite qu'on appelle le Toxoplasma gondii. C'est le parasite qui produit la toxoplasmose et qui est transmise par les chats. Et en fait, c'est prouvé expérimentalement sur les souris qui sont contaminées par ce parasite qu'elles ont beaucoup moins peur des chats et qu'elles sont très curieuses et donc elles se font dévorer par les chats. Ce qui permet à ce parasite de se reproduire dans l'estomac des chats pour produire des sporozoïdes, vous trouvez le mot joli, donc des petits éléments, qui ensuite contaminent les souris, qui du coup se font ensuite dévorer par les chats, qui, etc., etc. Et donc, ce parasite, Toxoplasma gondii, modifie le comportement des souris. Et apparemment, il y a un tiers de l'humanité qui serait contaminée et qui aurait statistiquement des comportements à risque. Donc méfions-nous des chats. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'on peut, sans en avoir conscience, porter en nous, avec plus ou moins de symptômes, eh bien, des pathogènes des microbes qui ont des conséquences inévitables sur notre vie. Mais il y a quand même de bonnes nouvelles sur le front du Covid-19. C'est qu'on a l'espoir de sauver des vies grâce à un vaccin, comme on l'a déjà fait pour la rage, hein, qui était pourtant terrible, et on n'en entend plus parler parce qu'on a un vaccin efficace, pour la polio, pour la tuberculose, qui sont éradiquées ou presque éradiquées, alors qu'il n'y a même pas un siècle, c'était des fléaux de l'humanité et qu'il y avait de nombreux morts, peut-être des dizaines de millions de morts si on cumule tous les morts. Mais, et c'est là où je veux en venir, c'était pas pour faire l'actualité, c'est qu'il y a une maladie qui est beaucoup plus grave que le Covid-19 et dont on n'entend jamais parler aux infos. Et pourtant, ça touche 100% de l'humanité. Et pourtant, il y a même 100% de taux de mortalité. C'est une terrible pandémie qui est toujours en cours depuis des siècles. Et les médias n'en parlent pas du tout. Alors qu'il n'y a pas une seconde sans un décès ou une grave atteinte physique ou psychologique qui sont dues à cette pandémie. Et il n'y a même pas, si on teste toute l'humanité, il n'y a même pas un seul porteur sain. On est tous symptomatiques. Et ça, même pas besoin de dépistage. C'est malheureusement une certitude. Alors, c'est pas la peste noire, c'est pas le choléra, c'est pas la lèpre. C'est un peu tout ça, mais encore en bien pire. Ben, c'est le péché. C'est une maladie spirituelle. C'est une épidémie spirituelle. Alors vous allez peut-être me dire que la comparaison est un petit peu excessive, voire même tout à fait déplacée, que le péché c'est pas bien, d'accord, mais c'est quand même pas si grave, que c'est pas aussi mortel qu'un virus, alors que le virus lui peut vous faire mourir, le péché, on vit avec. Mais le péché, si déjà on accepte la notion de péché, parce que c'est tellement en dehors de ce qu'on vit dans le monde que ça nous semble de dépasser comme idée. Mais le péché, c'est quelque chose de spirituel, c'est pas matériel. Et quand on voit les conséquences concrètes du péché dans les vies de certains, où il s'exprime avec plus ou moins d'évidence que chez les autres, hein, parce qu'en réalité, on est tous concernés, c'est juste plus ou moins visible, cette maladie spirituelle, plus ou moins supportable. Et bien quand on voit les conséquences, que ce soit dans le mal qui est fait, ou dans la souffrance qui est subie, eh bien on ne peut pas nier que le péché, même s'il est spirituel, a un impact réel. Le péché détruit les vies, comme une maladie détruit les corps. Et c'est horrible de voir, je ne sais pas si vous y êtes sensible, mais c'est parfois tellement évident que ça devient même douloureux quand on voit certains, quand on croise des personnes, même dans la rue, mais qui portent sur leur visage cette souffrance, ou ces traumatismes, ou pour d'autres, cette malfaisance, qui sont autant d'expressions visibles de ce mal. C'est aussi clair que des symptômes cliniques d'une maladie physique. Et ce sont des manifestations visibles, ce sont les conséquences du péché. Alors c'est quoi le péché ? Mais c'est tous les mauvais désirs, c'est les mauvaises pensées, c'est la volonté mauvaise, qui sont mis à la première place dans la vie de ceux qui ne sont pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, et qui, en fait, accomplissent leur propre volonté, leur propre désir, quitte à faire mal, quitte à faire le mal, quitte à faire détruire des vies, et la leur en premier. Et toutes les violences, tous les crimes, toutes les horreurs abominables qu'on voit dans la grande histoire de l'humanité, hein, mais aussi dans les rubriques faits divers, dans les journaux ou dans les actualités, parce que c'est la triste réalité quotidienne, et bien toutes ces choses ne sont rien d'autre que les symptômes concrets, les conséquences de notre péché spirituel. Parce que le péché, un peu comme la toxoplasmose, influence la vie de la personne dans laquelle il s'est introduit. La vie sans Dieu, dans le péché, c'est dans le meilleur des cas. C'est-à-dire, si on ne fait pas toutes sortes d'horreurs, toutes sortes d'erreurs, eh bien la vie sans Dieu, c'est une lente agonie sans espoir, à laquelle on ne peut pas échapper, parce qu'on porte ce virus du péché dans nous. et que la conséquence du péché, c'est la mort. C'est dans notre nature. C'est une maladie spirituelle contre laquelle on ne peut pas lutter parce qu'on n'a pas de système immunitaire spirituel efficace. On ne peut pas se défendre. Alors si vous trouvez que c'est un discours moralisateur, eh bien je pense que vous vous trompez. Je crois que c'est un simple constat. C'est un diagnostic spirituel. Le péché est une maladie spirituelle qu'on porte en nous dès notre naissance et que souvent, pour beaucoup, pour la plupart, on développe, on encourage, parfois par ignorance, le plus souvent par faiblesse. Et tout ce qu'on peut faire de bien, tous les élans de générosité, toutes les bonnes œuvres, tous les bons sentiments, tous les grands idéaux, ne peuvent rien y changer, parce que ça ne fait pas le poids, ça ne contrebalance pas le mal qu'on peut faire à cause de notre péché. C'est ce que nous dit Jacques au chapitre 1, au verset 13, quand il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne doit dire « c'est Dieu qui me tente », parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, les mauvais désirs, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. C'est vraiment une description presque clinique de la conséquence de la présence du péché dans nos vies. Et c'est d'autant plus un comble que bien souvent, on est responsable nous-mêmes de cet état. En tout cas, on ne fait rien pour changer. De toute façon, on en est incapable, c'est perdu d'avance. Mais souvent, on cultive, on se complaît dans ce péché qui nous détruit. Pour prendre une comparaison, hein, c'est un peu comme certains fumeurs atteints d'un cancer du poumon qui continuent à fumer, qui disent « perdu pour perdu, autant se faire plaisir ». Vous allez me dire que c'est aberrant. Oui, mais bien souvent, on a le même comportement spirituellement. On a la même réaction vers le péché. Alors que c'est vraiment un fléau de l'humanité. Mais, heureusement il y a un mais, il y a une bonne nouvelle sur le front de cette épidémie du péché. C'est même, et c'est le cas de le dire, la bonne nouvelle. Il y a déjà un vaccin spirituel. Le vaccin face au péché, c'est la grâce. C'est la grâce en Jésus. Et c'est un vaccin qui est 100% efficace. Et c'est un vaccin qui est mis en œuvre avec une facilité absolue. Il est disponible en quantité illimitée. Et en plus, il est gratuit. Et là, il n'y a pas de différence entre différentes parties d'un pays, concitoyen ou pas, etc. La grâce est valable et est disponible pour tous. On est tous égaux devant la grâce. Il n'y a pas de considération de coût de revient, de décision arbitraire, de savoir qui a droit ou qui n'a pas droit, qui le mérite ou pas. On est tous au bénéfice de la grâce. Elle est gratuite, alors qu'elle a eu un coût exorbitant. Vous savez, souvent les laboratoires pharmaceutiques justifient les prix des médicaments par les coûts de développement. Imaginez le coût de développement de la grâce. Tout ce qu'il en a coûté à Jésus pour qu'on puisse être au bénéfice de la grâce. Ça lui a coûté la séparation avec le Père. Ça lui a coûté de porter nos fautes. Et c'était un prix qui était tellement élevé que de toute façon on était incapable de le payer nous-mêmes et qu'il a fallu que ce soit Jésus qui le paye à notre place, à la croix. Et du coup elle est gratuite parce qu'elle est offerte à tous, sans discrimination, sans condition. Il suffit de l'accepter et de suivre le protocole sanitaire spirituel de l'Évangile. Et automatiquement, on est guéri. La grâce, c'est un vaccin qui produit même une immunité à 100% contre les péchés. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Parce que de la même manière qu'un vaccin, quand on l'injecte dans le corps, le vaccin détruit les pathogènes, détruit les virus et les microbes. Ils ne sont plus présents dans l'organisme. Et bien de la même manière, la grâce détruit le péché en nous. Il n'est plus présent. La grâce nous donne une nouvelle vie spirituelle, une nouvelle nature. Et de même que le péché a des conséquences concrètes dans nos vies et tout autour de nous. Ça, je l'ai évoqué au début, c'est incontestable. Tout le mal qu'on peut, et la souffrance qu'on peut voir sur cette terre, dans le monde, c'est la conséquence du péché. Donc c'est du concret. Mais heureusement, la grâce aussi a des conséquences concrètes dans nos vies. Et c'est merveilleux quand on le vit. Parce que la grâce, c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est pas juste de la théologie. C'est quelque chose qui a un impact réel. Et tous ceux qui suivent le Seigneur d'un cœur sincère parmi nous, tous ceux qui connaissent le Seigneur, eh bien, savent de quoi je parle. Et ils peuvent en témoigner. La grâce change toute notre vie. Et même celle de tous les jours, du quotidien. C'est pas juste le dimanche matin ou quand on est dans des circonstances particulières. C'est tous les jours, à chaque seconde de notre vie, la grâce change tout. Parce qu'elle a changé nos cœurs et en bien meilleur. Et c'est aussi ce que nous dit Romains 8, à partir du verset 1, où l'apôtre Paul écrit « Il n'y a donc maintenant, avec la grâce, par la grâce, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ, m'a affranchi, m'a guéri, de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié, opposition contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Mais ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas plus selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, de Christ, pardon, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, eh bien celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je pense que ça résume vraiment la grâce et l'action de la grâce dans nos vies, dans nos cœurs. Alors c'est vrai que si un vaccin n'est pas assez testé, en ce moment, on parle beaucoup de la précipitation avec laquelle on a mis au point les vaccins contre la Covid-19. C'est vrai qu'il y a un risque qui est des possibles effets secondaires graves. Toute la difficulté, c'est de bien peser la balance entre les bénéfices d'un côté et les risques. Mais pour ce qui concerne le vaccin spirituel qu'est la grâce, eh bien là, Dieu a eu l'éternité pour mettre au point son vaccin. Il est 100% fiable, 100% sans effet secondaire. Et parce que ça ne fonctionne pas comme un vaccin standard, je ne sais pas si vous connaissez le principe d'un vaccin, ça repose en fait sur l'injection, l'inoculation d'un pathogène, enfin d'un microbe affaibli, ou des fragments de ce microbe qui font en fait provoquer une réponse forte du système immunitaire qui en est. Ce qui fait d'ailleurs que lorsqu'il y a mutation de virus, eh bien le vaccin devient parfois inefficace et qu'il faut tout recommencer. La grâce, c'est plutôt comme les vaccins qui sont à base d'anticorps monoclonaux. Je me suis documenté. Les anticorps monoclonaux, en fait, c'est une technique de vaccination assez récente qui consiste à introduire dans l'organisme des anticorps qui sont déjà présents dans notre corps, hein, dans le système immunitaire. C'est ce qu'on appelle des lymphocytes. Mais ces anticorps monoclonaux ont la particularité d'avoir été cultivés en laboratoire et d'avoir été dotés par une manipulation génétique ou par sélection. Ils ont été dotés de la capacité à reconnaître et donc à détruire le virus concerné. C'est une capacité qui n'est pas naturelle. Notre corps, les lymphocytes de notre corps, les anticorps de notre corps ne peuvent pas produire, combattre ces pathogènes. Mais ceux qui ont été modifiés et qu'on donne en vaccin en sont capables. Et donc, ces anticorps monoclonaux permettent à notre système immunitaire de faire ce dont il est naturellement incapable de faire par lui-même. Et bien, c'est pareil pour la grâce. Elle nous rend capable de résister au péché, ce dont nous sommes incapables naturellement. Pourquoi? Parce que la grâce ne fonctionne pas donc comme un vaccin standard qui nous accoutume au virus, donc la grâce nous accoutumerait au péché, où elle stimulerait, encouragerait notre âme pour l'aider à se défendre par ses propres forces contre le péché. Ça ne marche pas. C'est la loi, c'est la religion. On essaye d'encourager les personnes à faire des efforts pour lutter contre le péché. Mais ce n'est pas ça la grâce. La grâce, c'est l'injection en nous, dans notre esprit, de quelque chose de radicalement opposé au péché, qui va reconnaître le péché et qui va le détruire, comme les anticorps monoclonaux nous permettent aux lymphocytes de détruire un virus. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint que le Seigneur donne à tous ceux qui se tournent vers lui et dont la présence est incompatible avec le péché et qui le détruit et prend la place si on le désire vraiment et qu'on le laisse agir. Comme le vaccin que j'évoquais tout à l'heure, la grâce modifie notre nature pour nous rendre capables de faire ce que nous sommes incapables de faire par nous-mêmes, résister au péché et faire le bien. Alors bien sûr, il y a quand même quelques petits effets secondaires. Il y en a certains qui réagissent mal. Et on retrouve, face à ce vaccin spirituel qu'est la grâce, eh bien, toute la gamme de comportements qu'on voit actuellement face aux mesures sanitaires liées au Covid-19. Il y a ceux qui se pensent plus malins que tout le monde, ceux qui font preuve de scepticisme, qui contestent les mesures prises par les gouvernements, alors qu'il n'y a pas un seul spécialiste ou épidémiologiste ou virologue dans le tas. Tous ceux qui prétendent savoir plus que tout le monde, alors que tout le monde est dans l'ignorance. Et j'ajouterais que bien souvent, c'est quand même assez déplacé parce que ce qu'on nous demande n'est pas une bien grande atteinte à notre liberté individuelle, et si c'est un effort très limité. Allez plutôt voir, pour ceux qui estiment que porter le masque et se laver les mains au gel hydroalcoolique, c'est une atteinte insupportable à notre liberté, allez plutôt voir comment ça se passe aux Philippines, avec le dictateur qui est en place là-bas, qui impose un couvre-feu sanitaire jusqu'en septembre 2021, et qui profite de la situation pour éliminer physiquement ses opposants. Là, c'est des atteintes à la liberté individuelle, et c'est inacceptable. Mais nous, ce qu'on vit, dans le contexte sanitaire dans lequel on est, c'est pas si grave, c'est pas si dur, et même si c'était inutile, ça coûte pas grand-chose. Mais en revanche, donc cette attitude qui, sur le plan sanitaire, n'est pas forcément très pertinente, si on la transpose, si on a la même attitude sur le plan spirituel, là, c'est beaucoup plus grave. Ça nous conduit à notre perte. Si on rejette l'offre de Dieu de nous faire grâce, si on ne prend pas conscience de l'état dans lequel on est, alors là, c'est beaucoup plus grave. Et il y a toutes sortes d'excuses, hein, comme par rapport au Covid-19. Il y a ceux qui ne se considèrent pas comme malades, ceux qui estiment que le péché, ce n'est pas bien, mais ce n'est pas si grave, parce que tout le monde le fait. Il y a même ceux qui n'ont pas conscience de mal faire. Donc forcément, si on n'est pas malade, si on ne se sent pas malade, on ne ressent pas le besoin d'être sain. C'est tout le problème d'ailleurs. Il y a aussi ceux qui ont bien conscience de la situation, de l'épidémie qui est en cours, mais qui s'accommodent de leur péché, qui vivent très bien comme ça. C'est même quelque chose qu'ils aiment et auquel ils sont attachés. En général, d'ailleurs, c'est ceux qui vont mettre en avant leur liberté pour ne pas s'approcher de Dieu. Ils veulent rester libres. Mais c'est pas, en réalité, c'est pas ça. Ils veulent rester attachés au péché et faire ce qu'ils veulent. Le problème, c'est que ça ne dure qu'un temps et ça devient vite tragique. Et comme la présence de virus dans l'organisme, la présence du péché dans une vie a des conséquences inévitables. Il y a aussi ceux, enfin, qui sont confinés dans leur situation de péché, qui sont emprisonnés dans la culpabilité de leur faute et qui ne croient même plus qu'il y a une espérance. Et cela, quelque part, ils vivent déjà l'enfer. Parce que l'enfer, c'est quand on n'a plus d'espoir, c'est quand on pense que même la grâce de Dieu ne peut plus rien pour nous. Mais ils se trompent. Il faut sortir de ces attitudes. Il faut se tourner vers Dieu, avec l'espoir qu'il puisse faire quelque chose. Souvent, on ne sait même pas vraiment quoi, mais on espère. Et c'est cette espérance qui change les choses. Dieu nous demande juste notre consentement pour intervenir. Si vous avez lu, pour ceux qui ont lu les évangiles, il y a quelque chose de frappant, c'est qu'à chaque fois que Jésus allait guérir quelqu'un, ou qu'à chaque fois quelqu'un demandait son intervention, il demandait souvent, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Et aussitôt après, il disait, mais est-ce que tu crois que je peux le faire? Et c'est pareil dans notre vie, à chacun. Si on peut répondre oui, je crois que tu peux le faire, Seigneur, même si on a des doutes. Même si on ne réalise pas vraiment tout ce que ça implique, mais quand on a cette espérance, cette foi, qui est injustifiée rationnellement, mais qui devient une certitude, alors là, oui, Dieu agit, et même bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est Éphésiens, au chapitre 3 et au verset 20, où on peut lire que Dieu est celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La puissance qui agit en nous, c'est celle qui accompagne la présence du Saint-Esprit. Mais je crois aussi que la grâce est une puissance qui agit en nous. Pas juste de temps en temps ou à la conversion, mais à chaque instant, à chaque seconde. Dieu peut agir infiniment au-delà de ce que nous pensons possible. Et infiniment au-delà de ce que nous demandons dans nos prières. Et ça, il faut en prendre conscience. Et quand on en prend conscience, ça change notre attitude. Et pour reprendre le parallèle entre grâce et la grâce et le vaccin, il y a un effet secondaire. Vous savez, comme les vaccins, il peut y avoir des effets secondaires indésirables, des démangeaisons, des troubles intestinaux et autres petites choses amusantes. Eh bien, la grâce, elle a aussi un effet secondaire indésirable, qui n'est pas grave, mais qui est tout à fait indésirable. C'est la repentance, par exemple. Est-ce que vous êtes passé par la repentance? Ne réfléchissez pas. Si c'est le cas, si vous êtes passé par la repentance, vous le savez très bien parce que vous vous en souvenez parfaitement. Si vous avez besoin de réfléchir longtemps pour savoir si oui ou non vous avez peut-être vécu ça, c'est que ça reste à faire. Et je vous y encourage vivement. Parce que la repentance, c'est le signe qu'on a reçu le vaccin de la grâce. C'est comme quand on fait une réaction à un vaccin, le corps réagit fortement à ce qui lui est étranger, parce qu'on inocule quand même des virus, des pathogènes. Eh bien, le corps réagit fortement à ce qui lui est étranger et c'est ce qui fait que notre organisme est bousculé en profondeur pour produire la bonne réaction immunitaire. C'est le principe du vaccin physique. Eh bien, de la même manière, quand on se convertit, quand on reçoit le Saint-Esprit en nous, eh bien, notre nature humaine produit une très forte réaction parce que c'est pas étranger, c'est pas naturel, c'est étranger à notre nature. Parfois, c'est une réaction qui est très émotionnelle, ou pas, ça dépend des personnes, mais c'est toujours une réaction profonde qui bouleverse notre âme pour produire une réaction salutaire, c'est-à-dire qui amène au salut. Et la repentance, c'est un peu comme les effets secondaires d'un vaccin qui agit. Ça montre que notre âme réagit et réagit positivement. La repentance, c'est le regret amer de nos fautes, le regret du passé, le rejet du péché. Et c'est se tourner vers Dieu en lui demandant de nous pardonner. La repentance, c'est douloureux. C'est parfois très dur. Mais c'est nécessaire et indispensable parce que ça conduit au salut. Parce que ça permet à Dieu de nous pardonner, de régner sur nous et de nous guérir de cette maladie terrible qui nous condamnait. Par sa grâce, par son amour et par la puissance de sa seule présence. La repentance, c'est vraiment ça. Et c'est une étape, la repentance dans notre vie, eh bien, qui fait partie du projet de Dieu. Le projet que Dieu avait dès avant la fondation du monde de sauver l'humanité du péché qui l'accable. Alors vous allez me dire, mais pourquoi le péché qui nous accable? Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi la souffrance, le malheur, les horreurs qui affichent l'humanité et aussi même nos vies personnelles parfois? Je ne sais pas pourquoi. Mais ce que je sais, c'est que lorsqu'il y a une maladie grave, on l'a vu avec le Covid-19, on ne commence pas par chercher à comprendre pourquoi elle est là. Ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est avant tout trouver un remède pour guérir, parce que c'est nos vies qui sont en jeu. Eh bien, dans le domaine spirituel, il y a cette épidémie du péché dont on voit partout les conséquences tragiques. L'urgence vitale, ce n'est pas de chercher à comprendre d'où vient le péché, pourquoi et comment. L'urgence vitale, c'est de prendre le vaccin qui est disponible sans réserve pour guérir. Parce que là, c'est plus que nos vies qui sont en danger. C'est notre vie éternelle qui est en jeu. Et toute la Bible nous parle de ce projet de guérison de l'humanité, du début à la fin. Il y a plein d'exemples, comme Noé, hein, qui montre que Dieu veut sauver de la folie du péché ceux qui se confient en lui. Comme Job, qui au travers de la souffrance et de l'injustice, on vient rencontrer ce Dieu dont il avait jusqu'à présent seulement entendu parler. À travers Moïse, qui est la figure qui annonce Jésus, qui annonce le libérateur de ceux qui se confient en Dieu, et qui va guider le peuple de Dieu hors d'Égypte, vers l'accomplissement de ses promesses. Ce même peuple dont Dieu veut faire un peuple saint, comme lui-même est saint, et qu'il appelle sans cesse à observer ses commandements pour vivre à l'abri du péché. On trouve ça dans Lévitique, chapitre 11, verset 44, Soyez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. Et on retrouve ça jusque dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. C'est vraiment répété, un fil conducteur répété, et encore, tout au long de la Bible. Et pour reprendre le parallèle médical, Dieu se comporte vraiment à travers sa parole, comme un médecin qui explique, pour avoir le consentement éclairé de son patient, qui explique pourquoi il faut prendre tel traitement, comment il faut le prendre, quand et jusqu'à quand et dans quelles conditions. Et même si on ne comprend pas tout, eh bien on fait confiance au médecin quand on souffre et qu'on réalise qu'on est malade, qu'on a besoin de ses soins. Eh bien, à plus forte raison, il faut faire confiance à Dieu qui nous répète pourquoi il faut accepter la grâce, comment et quand et jusqu'à quand c'est valable et dans quelles conditions. Il faut lui faire confiance en ce qui concerne notre vie spirituelle, même si là non plus on ne comprend pas tout, mais il faut accepter son intervention parce qu'on souffre du péché, on en est malade et on a besoin de sa guérison. Et cette guérison, cette intervention médicale, ce vaccin, eh bien, elle est possible grâce à la venue de Jésus, Fils de Dieu, le Christ, c'est-à-dire l'envoyé, celui qui a envoyé pour accomplir jusqu'au bout la pleine volonté de Dieu. Celui qui a accompli ce plan du salut, qui a accompli tout ce qui avait été annoncé, toutes les promesses, et dont la mort à la croix nous donne un libre accès au remède ultime de la maladie spirituelle qui nous ronge. En Christ, nous avons la victoire sur le péché et sur la mort. Nous bénéficions de la victoire, nous bénéficions, pardon, de la victoire qu'il a remportée. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 15 et au verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais, grâce soit rendue à Dieu, il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans Romains 8, verset 37, dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, dit l'apôtre Paul, et c'est valable pour chacun d'entre nous, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, en Christ, nous avons la guérison de cette maladie qui nous gangrénait l'âme. Ce sont nos péchés, nos fautes, nos infirmités, nos maladies qu'il a portées. Et s'il les a portées, c'est pour qu'on n'ait plus à les porter nous-mêmes. C'est pour nous en décharger, pour nous en libérer, pour nous en guérir. C'est ce qui est marqué dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8 et au verset 17, où on nous dit que Jésus guérissait tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. De point. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Et en fait, ça fait référence à Isaïe 53 au verset 54, où des siècles à l'avance, on nous dit que ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et je trouve beau, encore une fois, que ce soit annoncé des siècles à l'avance, par la bouche des prophètes, ce que Jésus a accompli. Et autant le péché, j'insiste là-dessus, c'est pas une notion théologique abstraite, sans conséquence dans notre vie réelle, eh bien, autant la grâce, autant cette victoire, c'est pas non plus de la théologie, c'est vraiment réel. Et ça change vraiment, totalement, la vie. Ce que nous dit l'apôtre Paul dans Romains 6 au verset 23, le salaire du péché, la conséquence, c'est la mort. C'est net, c'est clair. Mais, le don gratuit de Dieu, la grâce, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parfois, je trouve qu'il y a certains chrétiens, qui sont d'authentiques chrétiens, sincèrement convertis, mais qui ne semblent pas réaliser complètement l'impact de cette victoire de Jésus dans leur vie. C'est un peu comme si on avait d'anciens malades qui sont guéris, médicalement parlant, cliniquement. Il n'y a plus de marqueurs de virus, c'est merveilleux. Mais au lieu de se comporter comme des personnes guéries, ils continuent à vivre comme s'ils étaient encore malades, avec la même attitude douloureuse, avec le même mode de vie confiné, repliés sur eux-mêmes, avec les mêmes pensées résignées, la crainte envers le monde qui les entoure, avec le même ton de voix douloureux. Ils sont tout pareils que lorsqu'ils étaient malades, alors qu'ils sont guéris. Ça, c'est le passé, c'est fini. C'est quand on est malade qu'on se comporte comme ça. Si on a accepté cette grâce, ce vaccin, ce salut en Christ, on est guéri. Et maintenant, et pas dans un lointain paradis après une vie de souffrance méritoire et de pénitence religieuse. C'est valable aujourd'hui même, sans condition. Et même notre vie quotidienne est transformée parce qu'on a la paix, on a la joie, on a cette force qui vient de Dieu. On a toutes les bénédictions que Dieu veut répandre sur nous. Et on a juste à étendre les mains vers lui pour les recevoir. Et on est en pleine forme spirituelle. On pète le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit qui est en nous et qui nous rend capables d'accomplir la volonté de Dieu. Et donc la vie est différente. On ne peut plus se comporter comme lorsqu'on ne connaissait pas Dieu, comme lorsqu'on était accablé par nos péchés. Alors c'est vrai que la vie est difficile, souvent, Elle est douloureuse, parfois, oui, mais elle est victorieuse, toujours. On est capable de surmonter toute épreuve une fois qu'on est guéri. On est au-dessus de toute épreuve. On surmonte. C'est-à-dire, on ne subit plus les coups de l'ennemi, ni la domination du péché qui nous accablait. On est libre, on est guéri et on peut, je dirais même, on doit combattre les yeux fixés sur Christ. Et avec confiance, avec la confiance que nous donnent tous les versets, toutes les paroles qui nous encouragent, que par exemple, il n'y a aucune épreuve qui surmontera nos forces. C'est dans 1 Corinthiens 10 au verset 12. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, parce que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de sortir, afin que vous puissiez la supporter. Et puis l'apôtre Paul, dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 13, où il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas une petite victoire de justesse, c'est une victoire totale et définitive. Ce n'est pas un petit mieux par rapport à la maladie qui nous accablait, c'est une guérison totale. C'est cette victoire que Dieu donne à ceux qui l'aiment et lui font confiance. Et j'ai trouvé un passage qui dit bien mieux que moi, ce que j'essaye de dire, c'est dans Colossiens au chapitre 2 au verset 13. On résume tout ça. Vous, nous, qui étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est vraiment une victoire totale. L'ennemi, ce qui nous accablait, le péché, ce qui nous faisait souffrir, est dépouillé. Il n'est pas juste vaincu, il est dépouillé, c'est-à-dire que Christ a pris tout ce que l'ennemi pouvait avoir. C'est un triomphe. Au sens, à l'origine, le triomphe, c'est dans l'Antiquité, vous connaissez un arc de triomphe. Eh bien, c'est le bâtiment qu'on bâtissait pour un général qui avait vraiment remporté une grande victoire et qui défilait en dessous. C'était vraiment une manière de concrétiser la victoire incontestable. C'est un triomphe. C'est ce que Christ a accompli. Et ce qui est incontestable aussi, ce qui est un triomphe, c'est qu'il nous fait grâce de nos enfances et nous rend la vie. Alors, en conséquence, on est appelé à agir, à vivre pleinement cette vie nouvelle et à la répandre. On doit devenir contagieux pour le salut, peut-être au moins autant qu'on l'a été pour le péché. C'est ce que nous demande Jésus dans Matthieu 28. Faites de toutes les nations des disciples, pas par la force, pas par la contrainte, pas par les arguments théologiques, mais par la bonne nouvelle de la grâce. On doit devenir à notre tour des vaccinateurs. On doit se sentir chargé de propager cette guérison spirituelle tout autour de nous, en faisant connaître ce vaccin, en le proposant à tous, en encourageant pour que chacun puisse faire le bon choix, puisse connaître cette guérison. Et quand on vit ça, on a envie de dire à tous ceux qui ne connaissent pas cette vie avec Dieu, à tous ceux qui n'ont jamais rien connu d'autre que l'insatisfaction perpétuelle et la déception du péché, à tous ceux qui ne peuvent même pas imaginer qu'il puisse y avoir autre chose, et c'est normal. Mais on a envie de leur dire, mais soignez-vous, acceptez ce vaccin, c'est tellement simple, il n'y a rien à perdre, saisissez votre chance. Et vous verrez comme on est bien quand on est en bonne santé. Vous verrez comme on est heureux quand on est guéri, quand on sait que Dieu nous pardonne nos péchés qui sont effacés, oubliés. Et qu'on sait qu'il nous aime et qu'il veut être réconcilié avec nous, et que rien ni personne ne pourra nous arracher de sa main. C'est ce qu'on vit pour beaucoup d'entre nous, pour tous ceux qui ont reçu le vaccin de la grâce et qui sont guéris. Et ça, c'est bien plus important que les pires épidémies. C'est bien plus puissant que le meilleur des vaccins. C'est la victoire de l'Évangile. Et nous sommes appelés à la vivre en nous-mêmes, mais aussi à la proclamer tout autour de nous, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. Eh bien, si quelqu'un avait la gentillesse de prier pour qu'on termine cette prédication, puis après je passerai aux annonces. Avons-nous un dernier chant? Lui m'a fait des annonces, donc je vais faire les annonces. Donc, pour ne pas oublier tout à l'heure pour tous les membres de l'Assemblée Générale, pour les seuls membres pour cette année, parce que sur Skype, si on est trop nombreux, c'est pas pratique, à partir de 13h30, à 13h30, on va être rapide et efficace, parce qu'il fait beau, tout le monde a envie d'aller se promener, je suppose. Et puis c'est administratif, mais pas seulement. Je pense que c'est important quand même de participer à la vie de l'Église jusque dans ces domaines-là. Puis il y a des décisions à prendre et donc c'est très important. Donc, Assemblée Générale cet après-midi. Je continue et je persévère à faire un appel pour le témoignage. On pourra le partager pour dimanche prochain. Je pense que c'est important de conserver cette dynamique qu'on a depuis quelques mois maintenant, je crois. Où chacun peut soit témoigner de sa conversion, ça permet de mieux se connaître, ça permet aussi d'affirmer pour la personne ce que Dieu a accompli dans sa vie, ça c'est pas anodin, ça fait partie du processus de guérison et de vaccination aussi, hein, c'est une conséquence. Donc, si quelqu'un se sent capable d'apporter son témoignage, j'encourage, hein, et ce serait bien de me le dire pour qu'on puisse s'organiser. Ça peut être aussi un partage. Je rappelle également donc les réunions de prière, parce que là aussi on persévère, on ne change rien, on continue. Donc demain à 14h par Skype, hein, pour tous ceux qui peuvent assister, qui sont disponibles, et donc jeudi à 18h également sur Skype. Voilà. Les calendriers, tout à fait. Mais avant de parler des calendriers, on avait parlé de faire des réunions d'études bibliques. Ceux qui sont intéressés, je leur propose de prendre contact avec moi pour qu'on puisse mettre ça en place. En plus, par Skype, ça marche très bien, parce que c'est tout à fait adapté. Donc, si certains désirent qu'on mette en place de nouveau, comme lors du premier confinement, des études bibliques ou des réunions de réflexion, on va dire, où on pourrait, par exemple, aborder des sujets, des thèmes, sur lesquels on a besoin d'avoir suffisamment de notions pour pouvoir ne pas se laisser influencer. Je pense par exemple, il y a toutes sortes de sujets sur lesquels on a besoin d'être capable de ne pas se laisser déstabiliser par toutes sortes d'argumentaires opposés du monde. Hein, ça peut être par rapport à des problèmes scientifiques, ça peut être par rapport à des notions morales comme le péché ou toutes sortes de choses. Je pense que ce serait utile pour beaucoup, pour tous d'ailleurs, de savoir faire la part des choses. Donc, si certains sont intéressés, qu'ils me contactent pour qu'on mette ça en place. Et enfin, donc, c'est bientôt l'époque des calendriers. Évidemment, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Par contre, Pierre de l'Exèpre à Besançon a mis en place un lien sur son site sur lequel on peut voir tous les calendriers et on peut passer commande comme on le fait chaque année. Donc j'encourage chacun, tous ceux qui sont intéressés, à aller voir sur le site de l'Exèdre hein, pour voir un peu les différents calendriers. Et puis après, on fera certainement une commande groupée. Intervention TV? Ah,
Là,
mais...
c'est aussi une possibilité d'en avoir. Voilà, vous faites comme vous voulez. Mais nous, on en a déjà.
D'accord.
Faites comme vous voulez.
Ben, je pense que le mieux dans ce cas-là, ce serait que chacun aille voir sur le site de l'Exèdre et qu'on fasse, avant de passer une commande, on voit ce qu'on a déjà en stock. Hein? Voilà. Et l'intérêt, c'est de, l'intérêt, en fait, c'est de soutenir Pierre parce que son magasin continue à être ouvert. Et il est vraiment, enfin, c'est vraiment important, voilà, de le soutenir. Hein. Il est ouvert parce qu'il y a un rayon alimentaire, épicerie solidaire, et c'est ça qui lui permet d'ouvrir, mais il faut, c'est bien de soutenir financièrement. Donc, comme tous les ans, n'oubliez pas non plus le calendrier. Je crois que j'ai tout dit. 14h, pour moi, c'est 13h30. 13h30 sur la convocation, on s'y tient, même si ça va peut-être rogner un peu sur la sieste de certains, mais comme ça on sera libre plus rapidement peut-être. 13h30, hein? Je lancerai l'appel comme on fait d'habitude. Ok? Très bien. Donc je crois qu'on a un dernier champ.
On va prier. Chanter que ton règne vienne.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué et honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne.
Bien, je vous souhaite
un grand merci, un grand bravo à Fabienne.
Si vous voulez d'abord rougir, appelez-moi.
Non, ouais.
Merci. Et merci au Seigneur parce que c'est lui qui donne les capacités. Et c'est dans les périodes un peu difficiles que justement les capacités émergent. Ça, c'est très important. Bon dimanche à tous.
Très bien.
Merci beaucoup.
Ouais,
bah, tu sais, oui, c'est cohérent, oui.
Ça marche avec le baptême.
Ah, tout à fait. Exactement. On aurait pu parler du baptême.
On se voit demain.
On se voit demain, sans faute, bien entendu. Donc, après la réunion de prière de 14h, 15h, vers 15h, un petit peu passé, comme on a fini, je t'appelle pour la préparation au baptême. Ensuite,
là, parce que j'ai encore pas mal de choses à
faire. Pour faire ses devoirs.
Et
puis après, on a évidemment la réunion, j'en ai pas parlé parce que c'est un peu entre nous, mais tout le monde peut venir, hein, mais avec Serge, Michel, Sylvie et puis Manu. On a une discussion, une réunion un peu de partage et de discussion. Voilà. Ok. Très bien. Bon dimanche à tous. Bon courage à tous avec le Seigneur. Et puis à bientôt. Salut Pascal. Ça a été, t'entendrais bien?
Ouais, ça allait bien, ça fait.
Ah, c'est super.
Il faudrait quand même qu'on trouve. Depuis le dernier confinement, je n'ai pas trouvé parce que je n'ai pas cherché, mais on trouve la solution pour que tu puisses prier quand tu as envie. Quoi. Après, si tu parles fort dans le téléphone, je suis sûr qu'on t'entend. Hein. Oui, t'inquiète. Je te rappelle tout à l'heure pour le conseil pour l'Assemblée générale. D'accord, vers 1h30 alors.
Mais le chat m'en est écrit.
Ah, mais c'est super.
Il veut y remplir. Oui et non.
Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Très bien. Ah ben, comme ça, au moins, tu vois, il y a une trace, c'est bien.
Ouais.
Mais il t'a donné ça quand?
Ben, il y a fois, il y a pas rempli.
Ah, il est venu hier soir, je sais pas. Ah, mais il se balade beaucoup, hein. On n'a pas le droit, normalement. Hein. Ok, c'est super. D'accord, ok, impeccable. Bon, ben à tout à l'heure alors. Hein. Ouais, mais normalement, avec le rendez-vous par téléphone, normalement c'est bon, non?
Oui.
Ils vont te donner les conseils, ils vont te dire ce qu'il faut remplir. Hein. T'inquiète pas. Oh. Ah non, oui, je crois que tu as dit que tu allais faire des fausses déclarations. Non, il faut que ce soit.
Ouais.
D'accord, on est en charge.
Je vais ranger en sécurité.